Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Regard sur notre planète dans Géopolitique aujourd'hui. État des lieux et perspectives sont mis en débat avec nos deux invités. L'un scientifique, Jacques Blamont de l'Académie des sciences, l'un des pères de l'aventure spatiale française, auteur de nombreux ouvrages dont Introduction au siècle des menaces aux éditions Odile Jacob. Bonjour Jacques Blamont.
Bonjour madame.
Et l'autre géostratège, Gérard Chalian, spécialiste de stratégie et de géopolitique, également grand voyageur, auteur de nombreux ouvrages, dont l'anthologie mondiale de la stratégie chez Robert Laffont ou le nouvel art de la guerre chez Pocket. Bonjour Gérard Chalian.
Bonjour.
Jacques Blamont, les conflits armés sont l'une des trois grandes menaces avec les épidémies et l'épuisement des ressources naturelles qui, selon vous, pèsent sur la planète Terre et que vous exprimez dans Introduction au siècle des menaces. Que vous inspire le type de guerre qui est actuellement menée en Afghanistan ?
Nous sommes en présence d'un cas assez connu de ce qu'on appelle des guerres asymétriques, c'est-à-dire de conflits entre, disons, des armées modernes organisées et des réseaux, appelons-les populaires. Cette situation est cependant assez différente de ce que nous avons connu dans l'histoire. Et pour faire comprendre ce que je pense là-dessus, je veux vous citer, pour moi, ce qui est aujourd'hui le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, pour moi, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est bien connue des industriels, et qui consiste en ce que les performances des composants électroniques augmentent, disons, d'un facteur 2 tous les deux ans. Et ceci est vrai depuis 1962, c'est-à-dire depuis près de 50 ans. Et cela signifie que ces performances ont amené à l'existence de produits utilisant les techniques digitales qui ont littéralement transformé notre société, la société humaine sur toute la Terre.
C'est-à-dire ?
Eh bien, parce que les conséquences sont des inventions successives. Ça a commencé par les ordinateurs personnels qui ont transformé tous les modes de travail, puis Internet, puis la télévision, parce qu'elle est d'aujourd'hui universelle, et puis le SMS. Nous avons maintenant l'iPhone qui va lui aussi agir dans ce sens-là. Et donc, ça veut dire que toutes les populations sont maintenant capables de communication très considérable, soit entre elles, soit avec les autres. Et donc, cette communication permet à la technologie moderne d'entrer chez les pauvres. J'ai l'habitude de distinguer les peuples qui disposent de $50 par jour ou plus et les peuples qui disposent de $1 ou 1 ou $2 par jour ou moins. L'essentiel, de mon point de vue, en ce qui concerne la géopolitique, c'est que le progrès de la loi de Moore, c'est-à-dire le progrès des moyens de communication, profite davantage en ce qui concerne la valeur de nuisance aux gens à $1 qu'aux gens à $50.
Gérard Chalian, que vous inspire ce que dit Jacques Blamont ?
Écoutez, moi c'est une approche scientifique tout à fait intéressante. Moi j'ai évidemment une approche de terrain un tout petit peu différente. Je reconnais effectivement l'extrême importance de l'intrusion de la technologie auprès de populations qui jadis on était totalement privés, ce qui fait la grande différence entre certaines des guerres dites asymétriques, qu'on appelait tout bêtement des guerres coloniales autrefois, jusqu'à au moins 1940, où en fin de compte, ceux qui étaient technologiquement les plus avancés, et d'ailleurs aussi conceptuellement, l'emportaient toujours. Ceci dit, en ce qui concerne l'Afghanistan, pour être plus spécifique, on peut dire qu'en Afghanistan, d'une part, c'est une guerre qui a été la victime collatérale d'une guerre d'Irak, qui a, en fin de compte, marginalisé l'Afghanistan comme une sorte de théâtre mineur où pendant 7 ans, très peu a été fait, sauf essentiellement dans les villes, et où s'est développée, à l'abri du sanctuaire pakistanais, une importante insurrection qu'on a tort d'appeler strictement terroriste parce que ça ne rend pas compte de la réalité sur le terrain. Il y a une autre différence qui s'est créée en dehors de cette différence technologique et que moi j'appelle la dimension sociale de la stratégie, qui est l'apparition d'une nouvelle sensibilité chez les Occidentaux. Jusqu'à la guerre du Vietnam, comme pendant la guerre d'Algérie, bon, les sociétés occidentales encaissaient un certain nombre de pertes sans trop scier. Environ 30 000 pour la guerre d'Algérie, 58 000 pour la guerre du Vietnam. Et puis par la suite, on a vu arriver l'expression d'une sensibilité nouvelle, tout à fait inédite dans l'histoire, chez les Occidentaux du moins, d'un concept, celui de guerre zéro mort, au nom duquel on a essayé d'avoir le moins de victimes possibles parmi des soldats professionnels et volontaires.
C'est apparu lors de la première guerre du Golfe, c'est
oui,
ça ?
Oui, on l'a vu de façon vraiment très nette lors de la première guerre du Golfe, puisque l'ensemble de la coalition perd 350 hommes grand maximum, les Américains un peu plus de 80, et pour la première fois dans l'histoire depuis la bataille de Kadesh, ou pour la bataille de Marathon, pour ceux qui sont plus familiers de l'histoire grecque, on ne va pas publier les chiffres militaires des victimes de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas, on a tué par exemple 50 000 ou 75 000 soldats irakiens. Pourquoi ? Parce que finalement, même notre propre opinion publique n'encaisse pas la disproportion des pertes, même chez l'adversaire. Chose complètement nouvelle, puisque jusque-là, en général, on avait la tendance de forcer le nombre des pertes chez l'autre.
Donc peu importe le nombre de morts chez l'autre, ce qui importe, c'est le nombre de morts chez nous,
dans notre camp. Ça, c'est capital. Alors, vous vous souvenez sans doute de 17 ou 18 morts en Somalie, de 241 Marines qui sont morts et 58 parachutistes français à Beyrouth, et après ça, les troupes occidentales se retirent. Donc aujourd'hui, nous avons concrètement une guerre en Afghanistan où on a d'un côté, dans le cadre de ce qu'ils appellent asymétrique, une armée qui ne doit absolument pas multiplier les pertes parce que les opinions publiques ne l'encaissent pas. Et d'autre part, de l'autre côté, une main-d'œuvre en fin de compte illimitée dans la mesure où il y a autant de pachtounes du côté pakistanais qu'il y en a en Afghanistan. Donc, aujourd'hui, le décompte exact des morts pour l'ensemble de l'OTAN, qui regroupe 900 millions d'individus, se chiffre pour les 7 dernières années à 1350 à peine de morts professionnels. Et apparemment, ça paraît beaucoup. Ça, je trouve que ça absolument renversant, nouveau. On ne le signale pas. Au contraire, chaque fois qu'il y a trois morts, on a l'impression que c'est vraiment l'apocalypse. Alors que, par exemple, les Américains ont 40 000 morts par an dans les accidents de circulation et que, parfois, ils les encaissent. Donc voilà ce qui me paraît très important dans l'asymétrie nouvelle aussi, en dehors des questions strictement techniques, technologiques et autres.
C'est ce qui explique, Gérard Chalion et Jacques Blamont, la guerre spatiale que mènent les États-Unis précisément en Afghanistan, dans les zones où sont réfugiés les talibans.
Il y a deux guerres. Il y a la guerre aérienne avec des drones menés sur le territoire pakistanais, parce qu'il n'est pas question d'envoyer les troupes à pied, c'est à l'État souverain. Et puis, il y a la guerre en Afghanistan. Or, la guerre en Afghanistan, très longtemps, jusqu'à l'année dernière, a été essentiellement pratiqué par bombardement aérien, justement pour éviter les pertes du côté américain. Le général McChrystal, après une enquête et un rapport, a dit « il faut cesser les bombardements aériens sauf nécessité absolue parce que c'est contre-productif, nous faisons des victimes collatérales qui sont en fait des victimes, au fond, qui sont assumées. On préfère, pour ne pas risquer nos troupes au sol, bombarder un objectif pour tuer des talibans et en sachant que, ma foi, il va y avoir des civils aussi qui vont être victimes de ce bombardement. » Donc, de ce côté-là, un changement en principe de stratégie vient d'être adopté. On bombarde beaucoup moins aujourd'hui, ce qui va effectivement multiplier les pertes.
Alors, Jacques Blamont, pour en revenir à cette puissance que donnent les moyens de communication à l'homme à 1 dollar par rapport à l'homme à 50 dollars, est-ce que aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut dire à propos de l'Afghanistan, c'est qu'on se trouve dans une impasse et quelle stratégie pour sortir de cette impasse ?
Cette question a été très bien posée, je crois, par le général McChrystal, qui a été chargé par le président Obama de lui proposer une stratégie. Dans une guerre asymétrique, il y a deux grandes stratégies. Soit on tue l'ennemi entièrement, c'est-à-dire on attaque ses forces et on les élimine, soit on essaye de le séparer de la population. Et jusqu'à présent, en Afghanistan, on ne peut pas dire que les Américains aient choisi. Ils faisaient un peu n'importe quoi. Et donc, le général McChrystal, comme vous l'avez dit, a une formule très intéressante. Il a dit « Le nombre des talibans est infini. Donc, on ne peut pas les tuer tous. Donc, il faut faire quelque chose d'autre. » Mais faire quelque chose d'autre, on ne sait pas du tout ce que c'est, en réalité.
À l'heure actuelle, les gens qui conseillent M. Obama lui conseillent diverses options. Il faut d'ailleurs attendre le résultat des élections, puisqu'en fin de compte, c'est la paralysie tant qu'on ne sait pas très bien sur quel pied on marche. Et on a devant soi ou bien la solution de M. McChrystal, à savoir 40 000 hommes de plus pour tenir mieux le terrain, et ne pas se retirer après avoir fait une opération, mais rester, sécuriser en quelque sorte le village, et puis essayer de lui amener une sorte de transformation socio-économique. Ça demanderait beaucoup plus de troupes, en fait, que les 40 000, ce qui ne résoudra pas vraiment la chose, à mon sens. Et puis, il y a l'autre extrême, qui est défendu, entre autres, par le vice-président, qui dit, bon, il n'y a qu'à se retirer dans les villes, et puis former le plus rapidement possible l'armée locale, l'armée afghane, et puis faire des bombardements précis sur les endroits supposés où se trouvent Al-Qaïda, les djihadistes, etc., etc. En fait, je pense qu'on va choisir une option entre les deux, c'est-à-dire que on ne va pas se replier sur les villes, on ne va pas non plus essayer de conquérir l'ensemble du théâtre des opérations qui est extrêmement difficile en Afghanistan. Le terrain est trop alpestre. On va certainement décider de prendre un certain nombre de provinces clés, d'essayer de les tenir, d'avoir une approche différente avec les populations. Il est beaucoup trop tard pour gagner les cœurs et les esprits, mais on peut peut-être gagner les estomacs. Ensuite, à mon sens, le plus important de tout, alors là, est-ce qu'ils vont se décider oui ou non à le faire, c'est d'avoir à Kaboul un gouvernement respectable, c'est d'avoir un régime qui n'est pas corrompu, inefficace et impopulaire. Sinon, la seule analogie qui tienne avec le Vietnam, c'est que lorsque les Américains se retirent, personne n'est prêt à mourir pour le régime de Saïgon. Ce sera la même chose pour celui de Kaboul.
En ce qui concerne les Américains, Jacques Blamont, dans votre ouvrage, vous évoquez l'aspect post-guerre et la position que prennent aujourd'hui les Américains, c'est on fait la guerre, après ça on s'en va, ce qui est une véritable transformation par rapport à ce qui s'est passé par exemple dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est-à-dire que là on aboutit à la notion de nation building, c'est-à-dire construction d'une nation. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu du nation building par les États-Unis, ça s'est appelé le plan Marshall, avec un immense succès. Il a reconstruit l'Allemagne et l'Europe. En ce qui concerne l'Asie, jusqu'à présent, on n'a rien fait de ce genre. Sauf peut-être, il y a un petit essai en Irak. Mais disons que ça n'a pas vraiment été tenté parce que ça exige qu'il existe une communauté politique organisée dans le pays qu'on veut construire. L'Allemagne était une vieille nation avec des structures, des élites, et qui a volontiers accepté le plan Marshall. Mais sur quoi s'appuyer en Afghanistan pour faire ce genre de choses? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de structure sociale capable de construire le pays. C'est morcelé. Il y a une quantité de tribus. Mais je crois que le problème le plus grave, peut-être, n'est pas forcément l'Afghanistan. Ce qui est plus grave, c'est le Pakistan.
Oui.
Parce que au Pakistan, un pays surpeuplé, avec une quantité de jeunes qui sortent des grandes écoles coraniques en permanence, avec une vue extrêmement, disons,
idéologisée.
Oui, c'est ça. Et prête à mettre le feu au monde. Mmh. Ça, alors là, on ne sait pas du tout quoi faire.
Oui, je suis d'accord. Et j'ajouterais, il y a quelque chose d'important dans le livre de M. Blamont à cet égard, et qui n'est pas suffisamment soulevé par la plupart des politiques, c'est l'extraordinaire poussée démographique qui s'est manifestée dans les 50 dernières années. Faut-il rappeler qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a à peu près dans le Nord, 30%, disons, de la population. Aujourd'hui, elle représente 15%. Les autres, ils sont dans le sud. C'est-à-dire qu'il y a eu un doublement, et parfois même un triplement, de population qui amène sur le marché des jeunes qui ont moins de 25 ans et qui ne débouchent du point de vue économique sur rien du tout, sinon sur le chômage, donc en définitive qui sont parfaitement disponibles pour n'importe quoi qui puisse les attirer. Vous avez aussi bien les économies parallèles, la drogue, les conflits, les guerres, etc., etc. Tout ça va alimenter effectivement ce genre de choses. Et au Pakistan, effectivement, vous avez beaucoup de candidats à passer à ce type d'action.
Alors, Jacques Blamont, c'est en prolongement de ce que dit Gérard Chalian, le Pakistan, des actions spectaculaires. On pense à ce qui s'est passé l'année dernière en Inde, oui. À Bombay, avec des jeunes.
Oui, c'est une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la loi de Moore. Il y a eu une attaque qui a été menée par un groupe, disons, dont le centre était à Lahore, au Pakistan. Et qui a donc attaqué plusieurs cibles dans la ville de Bombay. Ces gens qui étaient donc, je ne dirais pas illettrés, mais quasi illettrés, ont pu mener à bien une opération spectaculaire grâce à GPS, Google Earth, Internet, c'est-à-dire les moyens les plus modernes. Et donc, une opération comme celle-là, sans les moyens spatiaux, n'aurait pas été possible. Je crois qu'on touche du doigt l'idée que j'ai que les moyens modernes, la technologie moderne, apportent un élément décisif à la force des mouvements, des réseaux, des gens à un dollar. Mais pour continuer ce qu'a dit M. Chalian en ce qui concerne la population, je voudrais indiquer quelque chose sur l'Afrique du Nord. Lorsque l'Algérie est devenue indépendante, elle avait 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en a 32. En 2050, elle en aura 55. Même chose pour le Maroc, qui aura aussi 55 millions d'habitants, et la Tunisie en aura une vingtaine. Donc, nous allons trouver devant nous, de l'autre côté de la Méditerranée, 130 millions d'habitants. Pardon ?
De Maghrébins.
Maghrébins. Ouais. Or, à l'heure actuelle, l'Algérie, 97% de ses exportations, c'est du pétrole ou du gaz.
Du gaz.
Dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Il y aura encore beaucoup de gaz, mais il n'y aura plus de pétrole. Une situation un peu semblable au Maroc, 30%, je crois, des ressources viennent des exportations de phosphate, qui vont disparaître dans une trentaine d'années. Alors nous nous trouvons donc, à court terme, 30 ou 40 ans, devant une situation où tous ces Maghrébins seront urbanisés dans des bidonvilles, sans travail, sans ressources. Ce sont des faits, des chiffres.
Oui.
Sans passion, que ferons-nous?
Que feront-ils d'ailleurs?
Et que feront-ils d'abord?
Oui.
Exactement, que feront-ils?
Vous craignez
alors, la situation est la même, au fond, en plus grave au Pakistan, parce qu'au Pakistan, le régime est très faible, les ressources sont faibles, mais malheureusement, il y a dans les armoires quelques bombes atomiques.
Gérard Chalian?
Oui, ben ça pose un sérieux dilemme. Même sans parler de la bombe, je veux dire, ça pose de sérieux dilemmes d'abord à ces régimes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on constate? On constate en fin de compte qu'il y a au sommet une couche dirigeante militaro-civile qui est largement corrompue et extrêmement riche. Il y a une différence sociale considérable et quand ils sont mis en cause, ils se défendent avec une extraordinaire brutalité. On l'a vu au cours des années 90 en Algérie, par exemple. Et qu'est-ce qui est préparé pour l'avenir? Est-ce qu'il va y avoir des écoles avec un débouché quelconque? La réponse, c'est non. Non, on est en train de fabriquer du chômeur potentiel et on ne veut pas non plus, d'un autre côté, disons, juguler la démographie comme on l'a fait en Chine, par exemple.
Géopolitique, le débat, regard sur notre planète aujourd'hui, état des lieux et perspectives. Nous retrouvons nos invités Gérard Chalian et Jacques Blamont dans quelques instants. À tout de suite.